On va continuer alors.
Excellente idée. Comme il y avait des choses à évoquer, j'imaginais naïvement qu'il y aurait de quoi faire un petit peu la folle.
C'est présent, on en a parlé.
Bon, n'importe. Donc, là, je vais faire un peu d'acrobatie. Donc, je ne peux pas vous montrer les quelques éléments qui me semblaient pouvoir peut-être l'illustrer. Donc, la question qui me semblait poser, c'est-à-dire, en quoi des recherches d'éducation, et à partir de ce que je connais un peu moins mal, celles que je mène et que j'ai amenées, peuvent apporter comme éclairage éventuel sur vos réflexions, voire sur vos pratiques. Alors, il faut quand même que je dise qui je suis et d'où je parle. Bon, je vois pas mal de tempes grises, comme les miennes, qui connaissent un petit peu l'histoire, maintenant de relativement ancienne, de recherche sur les SES, et par les SES. Qui je suis? Je suis dans une première vie, j'ai été enseignant de SES, pratiquement aux origines. Dans une deuxième vie, j'ai été maître de compte de sciences économiques. Et dans une troisième vie, qui sera tout au moins que vie professionnelle la dernière, professeur de sciences de l'éducation, sur un poste didactique des sciences économiques et sociales. Donc, c'est le seul. Alors, fermez les pages, vous allez faire. Depuis, on n'a pas eu de retour. Voilà. Et donc, je mène des recherches depuis très longtemps. Donc, je pense que ce n'est pas inintéressant peut-être de vous dire un petit peu ce que je fais, ce que nous faisons. Donc, deux mots d'histoire. Alors, ça va être un petit peu décousu, parce que j'ai préparé quelque chose qui est un peu moins décousu. Mais bon, comme je ne peux pas présenter par d'images, etc., donc ça, je ne vais pas non plus prendre des exemples dans des tableaux, ça devrait faire de sens. Deux, trois mots d'historique. Les premières recherches. Alors, tout à l'heure, je parlais d'un époque aussi, de son Digit, qui a fait en quelque sorte l'ouvrage fondateur. Et puis ensuite, il y a eu, nous, j'allais dire, l'équipe d'Elisabeth IARP, je peux l'avoir aussi, mais pas dans cette équipe-là. Et puis, une équipe, alors là, très modeste, qu'on avait créée à la UFM avant l'UFM d'Aix-Marseille, appelée le CERP, Centre d'études de recherche en pédagogie et éthique et économie. En particulier avec mon ami Jean-Pierre Guidoni, ici présent. Donc, et nous avons eu une série de controverses scientifiques et plus, quelquefois un peu vives jadis, dans notre jeunesse. Bon. Ensuite, dans les années 80, à l'UFM d'Aix-Marseille, 80-90, c'était la création de l'UFM d'Aix-Marseille, l'année -1 même, mis en place. Et puis, donc, à l'Université de Provence, où je suis dans une équipe de recherche qui s'appelle UMR ADEF, désormais, Apprentissage, Didactique, Évaluation, Formation, et où je dirige un sous-ensemble, en quelque sorte, qui s'appelle Production, Contextualisation et Diffusion des savoirs. Et j'ai un séminaire qui fonctionne assez correctement, qui s'appelle École Contexte Didactique, au pluriel. Deux repères justes. En 2001, j'ai commis un petit bouquin qui était issu de mon HDR, La Didactique des sciences économiques et sociales, bilan et perspective. Bon, quand j'ai relu tout à l'heure dans le train, c'est pas intéressant. Et autre repère, là, qui va nous amener plus dans ce que je vais essayer peut-être de dire, de vous renvoyer, de vous interpeller. 2006, chez ESF, avec Laurence Simoneau, nous avons coordonné et dirigé donc, un ouvrage, que certains connaissent peut-être, L'école à l'épreuve de l'actualité, enseigner les questions vives, avec toute une série d'interventions liées d'autres collègues de SES ou ici de SES, comme Jeanne Mégias, qui est à l'UFM de Lyon, et comme Yves Alpes, qui est maintenant maître de compte en sociologie, directeur de l'IUT de Digne et qui travaille dans nos équipes. Mais il y a aussi bien d'autres gens. Je veux dire également que je me place d'un point de vue que j'appellerais didactique. Alors, il y en a, jadis, ça faisait des vagues, bon, ça n'en fait quasiment plus. Bon, ça dépend ce qu'on met derrière. Deux choses, d'abord, le point de vue didactique, ça me semble exactement dans ce qui peut vous intéresser. C'est-à-dire, je m'appuie là sur une courte citation d'Astolfi, le point de vue didactique, c'est l'effort pour prendre appui sur les acquis des recherches afin de tenir jusqu'au bout le pari de l'appropriation des savoirs par les élèves. Magnifique. Bon, c'est effectivement. Deuxièmement, par didactique, certains disent de science didactique, qu'est-ce que c'est que de faire des études de didactique? Eh bien, c'est d'étudier des situations d'enseignement-apprentissage en se plaçant principalement du point de vue des savoirs. Ça n'a rien de normatif. Ce sont des études qui visent à parler, à éclairer des données, des pratiques, hein, sous un angle évidemment restreint, hein, et dire un certain nombre de choses, peut-être les moins inintéressantes possibles, mais il ne s'agit pas de dire voilà comment il faut enseigner. Comme certains, peut-être à un certain moment, dans les années 80, certains avaient l'air de dire parler de transmission didactique, c'est normatif. Que nenni. Non. Donc, ayant dit cela, qu'est-ce qui se fait comme travaux qui pourraient, il y a d'autres évidemment, hein, mais qui peut-être éclairer certaines de vos réflexions. On travaille sur le métier d'enseignant. On a travaillé donc sur les formations en UFM, sur les sortants d'UFM, sur les stagiaires d'UFM, en particulier SES. Je m'occupais jadis de la formation SES et UFM d'Aix-Marseille. Désormais, non plus du tout. C'est-à-dire que ma contribution semblait non nécessaire, voire inutile. Je n'y fais plus seul. Pas pour voir revenir. Néanmoins, je continue à m'intéresser donc, à ces formations et je m'occupe des formations, en particulier des produits gestion. C'est pas faute de mieux, hein, parce que c'est extrêmement intéressant aussi. J'en reviendrai un peu tout à l'heure. Nous travaillons aussi sur les pratiques d'enseignement, et en particulier les SES, en particulier une thèse que j'ai suivie de Marie-José Armandetti, qui est l'Académie de Nice, qui a travaillé sur la dissertation en SES, extrêmement intéressant, et qui dit des choses sur des pratiques. Parce qu'il ne s'agit pas non plus, il ne s'agit pas seulement dans le travail, dans les travaux que l'on fait. Disons qu'on va jusqu'à la classe, dans la classe. Non, le didactique ne s'arrête pas à la porte de la classe. Nous faisons des observations dans les classes avec des outils spécifiques, etc. Nous travaillons aussi sur les enseignements économiques, alors les évolutions, les SES, les STT, STG, etc., donc dans le temps, sur les comparaisons, sur l'analyse comparative. Tout à l'heure, je voudrais toute petite illustration peut-être. Comparaison dans le système éducatif français, en particulier les systèmes des enseignements économiques, SES, enseignement général, enseignement technologique, STT, STG, enseignement professionnel, les services, enfin les lycées professionnels techniques, tertiaires, pardon. Entre systèmes éducatifs, j'ai des collègues qui travaillent sur des comparaisons entre le système italien, par exemple, l'allemand, l'anglais, etc. Nous travaillons aussi sur des objets d'enseignement scolaire. C'est peut-être ça qui peut aussi vous intéresser. Nous avons travaillé sur la monnaie, jadis, sur l'entreprise, sur les revenus. J'aurais voulu un petit éclairage là-dessus pour vous montrer que certes, vous êtes les meilleurs. Comme disait tout à l'heure Gisèle, c'est une l'âge, je la connais depuis si longtemps. L'âge. Donc, les revenus, l'incertitude et le risque, la mondialisation. Terminons une recherche, la INRP, alors recherche sur les revenus et puis une recherche INRP aussi, financée partiellement par l'INRP, c'est-à-dire, et c'est très intéressant, et ça répond à une de vos questions, c'est-à-dire, ça permet d'intégrer dans nos équipes de recherche pluricatégorielles des profs, dont des profs que moi j'utilise. Des profs de SES, des profs d'économie gestion, que ce soit des CAPET et des PLP, des profs de collège d'histoire géo et des profs d'école. Ouais. Donc c'est des catégories assez larges. On fait sur des thèmes, eh bien, on essaie de faire des comparaisons par la mondialisation. Une recherche que l'on termine actuellement là, eh bien, ça s'est fait en comparaison entre ces différents niveaux, ces différentes filières. Et en plus au niveau international. On est dû à des publications et puis à des colloques. Ce qui me permet de dire, pardon, je pense que je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce que vous disiez tout à l'heure sur les sciences de l'éducation. Je pense quand même que depuis peu d'années, il y a quand même un début de reconnaissance nationale et internationale. Les colloques sont plus nombreux. Il s'y passe beaucoup plus de choses, me semble-t-il. Et les travaux qui sont menés en France à l'étranger ont une reconnaissance au-delà, me semble-t-il, des faits uniquement des sciences de l'éducation. Un peu pour preuve, bon, des invitations que j'ai sur le tas depuis l'année, au Canada, dans des pays européens, etc., montrent que, particulièrement, on va tout à l'heure un petit peu des questions sur Salmonville, c'est quelque chose qui interpelle les travaux que l'on fait là-dessus et sur d'autres thèmes, semble quand même rencontrer une partielle reconnaissance, ouais. Une reconnaissance. Et nous travaillons aussi sur des effets de contexte, ce qu'on appelle des effets de contexte, c'est-à-dire contexte d'éducation, formel, non formel. On travaille par exemple sur une recherche sur l'éducation à l'environnement dans le milieu associatif, comparé à l'école. Sur les mêmes des gens qui sont des enfants qui ont ces formations à la fois associative école, école pas associatif, associatif pas école. Ça donne, me semble-t-il, des résultats assez intéressants. Je vais dire un tout petit mot sur ce que j'appelle des processus de co-construction de savoir critique. Et ça me semble quelque chose, si je l'oubliais, dites-moi que je vous dise un tout petit mot quand même là-dessus. Ça me semble quelque chose d'intéressant, peut-être pour contribuer à une sortie par le haut de l'école et des SES. Nous travaillons aussi sur des écoles, des contextes géographiques. Nous travaillons sur des écoles rurales depuis longtemps. Une étude qui est faite dessus depuis une dizaine d'années sur une promotion, enfin sur 2500 élèves au départ de l'école primaire qui sont maintenant au niveau de l'université. Également des écoles des périphéries, des banlieues, etc., des comparaisons. Donc vous voyez, c'est quelque chose d'assez assez divers, bon, etc., etc. C'était pour vous dire que le panel est quand même relativement riche hein, et que bon, maintenant une équipe qui n'est pas nulle au point de vue nombre et nombre et l'importance des travaux. Même si ce n'est pas reconnu, comme tu le disais, pas tout à fait reconnu comme des travaux qui sont faits dans d'autres domaines. Ça, c'est tout à fait clair. Un mot, vous allez vous dire, c'est un peu bizarre, vous allez dire, c'est un peu bizarre de faire ce contournement sur le rapport Guenry. Le rapport Guenry, je n'en pense pas que du bien. Alors que certains semblent penser beaucoup de bien. Ce n'est pas mon avis. Ce n'est pas mon avis. Alors, il est vrai qu'il y a des côtés positifs. Je vous dis ce que j'en pense et pourquoi, vous allez voir pourquoi je le dis maintenant. La place des SES semble confortée, au moins hein, dans le texte. La satisfaction globale des élèves est notée. C'est un temps. La cohérence globale de la formation est reconnue. Mais par exemple, ce qu'on ne trouve pas, et ce qui me semble fondamental pour avoir été aussi dans les deux derniers groupes d'experts, c'est la conception spiralaire. Il me semble quelque chose d'extrêmement important, nulle part. Cohérent, oui, mais... Et après. Ce qu'on trouve également, c'est une sorte d'appel à la généralisation d'éléments d'une troisième culture, okay. Mais qui est rabattu ensuite, me semble-t-il, sur les fondamentaux. Alors, non, enfin, il me semble que non, et j'essaierai de le dire un petit peu tout à l'heure. Alors qu'il me semble que la question n'est pas celle en termes de fondamentaux, mais la question du sens des apprentissages. Dans l'école et hors l'école. Ce qui me semble particulièrement étonnant, mais ça ne l'est pas, en fait, c'est la forclusion, en fait, des recherches d'éducation et de la didactique. C'est, me semble, effarant. Que des experts, et qui sont des gens très respectables dans leur discipline d'origine, etc., j'allais dire, se permettent de dire des choses sur les enseignements de SES, c'est pas étonnant, non, mais néanmoins, ça m'étonne quand même, je réagis, je pense qu'il faut réagir. Il est dit, par exemple, nous sommes dans les classes, nous avons vu ce qui s'y passe. Tous ceux qui ont travaillé sur l'observation de situation scolaire, c'est atterrant. C'est absolument atterrant. Il y a des travaux, il y a énormément, il y a des méthodes, etc. Un minimum d'outils. Bon, c'est pas parce qu'on va être passé dans une classe qu'on va voir ce qui s'y passe. Ou alors, c'est un théâtre, ou alors on y va avec une idée et on retrouve ce qu'il apporte, etc. C'est évident, c'est un non-sens. Or, ils le font. Des gens qui sont des experts, des scientifiques, etc. C'est donc une sorte de d'autisme de ce qui peut être les sciences d'éducation, des travaux sur ce qui se fait dans les classes, etc., c'est, me semble-t-il, complètement aberrant. Aucune, alors quasiment aucune référence à des problèmes de sur les SOS, sauf une fois que j'ai cité. Oui, une fois. Elisabeth, pardon, Adeline Richer, c'est la seule à avoir été invitée pour parler de ce qu'elle avait fait et puis de ce qu'elle fait sur les comparaisons internationales. Les travaux d'Ival, qui a fait une thèse, des tas de travaux, etc., sur les SES comme création, comme innovation pédagogique. C'était un travail de sociologie, c'est très intéressant. La thèse de Christine Dolo sur le chômage, inconnu. Les travaux d'Emmanuel Trivi, qui était la première thèse, en quelque sorte, sur l'enseignement. C'était, oui, mais c'était sur le thème, je ne sais plus exactement, enfin bref. Des travaux que j'ai pu faire, etc., et d'autres, pas un seul mot. Pas un seul mot. Pas, aucun n'a été, aucun d'entre nous n'a été invité. Et il n'est nulle part dit de référence à cette, quand même, à ce corpus qui existe. Alors, certes, j'entends un nom. Oui, bon, j'entends un nom. Mais dans ces interventions, tout au moins le papier, aucune référence à ces travaux-là. Aucune. La transposition didactique, ça n'existe pas. Et ça, c'est quelque chose que j'avais repéré lorsque j'étais expert pour des enseignants du supérieur. Il y a deux conceptions, en quelque sorte, de l'enseignement dans le secondaire. Soit c'est un modèle réduit des enseignements universitaires, soit ce sont des petits savoirs assez bons pour ce type d'élèves. Ils ont les plus grandes difficultés, certains ont avancé, la plus grande difficulté à concevoir qu'il y a nécessairement, inévitablement, ce que l'on peut appeler ou pas une transposition didactique. C'est que les savoirs, d'où ils soient issus, que ce soit des savoirs de type savoir, que ce soit des savoirs de type pratique sociale, pratique professionnelle, etc., prennent forme scolaire. Il change. La distance est plus ou moins grande. Là, je ne vais pas parler de théorie en termes de gestion des distances au savoir, mais la distance à ces savoirs varie, plus ou moins proche, plus ou moins grande, etc. Mais ce ne sont pas les autres savoirs. Ou alors, il n'y a plus de transposition, c'est une sorte de négation de l'école type secondaire. On pourrait en parler. Donc, la transposition didactique, la didactique, ça n'existe pas. Le mot didactique, je l'ai repéré une fois. C'était démarche didactique dans le sens de comment les profs les enseignent. Donc une sorte de banalisation du terme didactique, qui est d'ailleurs utilisé souvent cette forme-là par les inspecteurs de différentes disciplines. Également, rien sur les spécificités, moi ce que j'appelle la vivacité de la plupart des questions qui sont dans les programmes des SES et d'autres aussi. Rien non plus. Alors j'ai vu qu'avait été auditionné un inspecteur d'économisation de STG. Oh, rien du tout sur les nouveaux programmes, les nouveaux objectifs, etc. et l'éventuelle concurrence, je mets entre guillemets, avec les SES. Il y a juste, c'est dit, l'inspecteur, etc. Et il me semble qu'il y a derrière quelque chose de lourd, c'est une sorte de scientisme de plus en plus envahissant. À savoir que. Il faut être sérieux, il faut se replier sur les fondamentaux, alors même que ce dont aurait besoin, et c'est dit dans le texte de loi sur l'école, etc., ce dont aurait besoin l'école, c'est justement d'une plus grande ouverture de la formation de citoyens critiques, voire l'injonction que traverse l'école du débat. Bon, éventuellement, je vois un mot ou une autre fois, etc. Le débat réglé à l'école primaire, le débat argumenté au collège ou au lycée. Je reprends un argument ou une manière de présenter la chose que disait Samuel Josua, disait l'école n'est plus une école pour apprendre, mais pour comprendre. Devrait être une école non plus pour apprendre, mais pour comprendre. Non plus seulement pour apprendre, mais aussi pour comprendre. Donc ce n'est sans doute pas en se reliant frileusement, uniquement, sur les fondamentaux, que notre école peut contribuer à la formation des citoyens du XXIe siècle aptes au débat, au choix critique, au choix argumentaire. dans l'école pour l'exportation hors de l'école. Eh bien, rien de tout ça ne me semble être dans le rapport Guébry, et ça me semble extrêmement dommage. Et pour l'analyse de ce qu'est véritablement l'enseignement de l'ESES, ni pour son avenir. Ça aurait pu être pire, je suis d'accord. Néanmoins, je m'insurge. Je me suis insurgé. Je sais pas. Oh, attends, je dis encore deux, trois mots, et je m'arrête. Deux, trois mots, je m'arrête. Oh, alors, vas-y.
Deux choses, je suis d'accord avec vous sur le fait que le CPL, vous allez passer quelques minutes dans les tests pour savoir comment ça se passe, je suis d'accord là-dessus. Comme le CPL allait faire des petits voyages dans les entreprises pour savoir comment ça se passe pour les profs et les élèves, ok. Bon, maintenant, peut-être en retirer quelques enseignements. À la commission Guinness, il y avait un dossier qui était sur le SES qui rencontre des élèves régulièrement. Sur la question des fondamentaux, est-ce que le fait de se concentrer sur les fondamentaux, ça implique une perte de sens ipso facto, dans la question. Et la deuxième question, c'est...
D'accord. Bon, ben, ça me permet, bon, quelque chose que j'aurais pu dire après, donc je dis un mot là-dessus. Il me semble que si on veut que les élèves trouvent du sens dans l'école, apprennent, et que ces apprentissages contribuent à la formation du citoyen, il faut qu'on aille au-delà. C'est-à-dire faire la simulation du débat scientifique de la classe, disons même si ça allait jusque-là, hein, c'est insuffisant. Ce qu'il faudrait, et alors les travaux sont légion, qui montrent que c'est possible et que c'est efficace. C'est donc les techniques extrêmement difficiles à mettre en place. Du débat argumenté dans la classe. Alors il y a des tas de travaux anglo-saxons qui sont faits, mais aussi en France, pas mal de choses, en particulier l'équipe de Laurence Simoneau, qui est ma comparse là, qui travaille à l'ENFA de Strasbourg, de Toulouse, et des tas, pas mal d'autres gens qui travaillent là-dessus, et qui, sur lesquels vous pouvez trouver dans les travaux de ces gens-là des pistes. Mais c'est extrêmement difficile. Néanmoins, il me semble qu'on ne peut pas avoir d'autres objectifs si l'on veut vraiment atteindre une école, arriver, contribuer à ce que l'école soit vraiment un marchepied qui permette la co-construction de savoir et que cette co-construction de savoir soit critique, puisque les SES veulent, et je crois que vous avez tout à fait raison depuis le départ, être critiques. Ne sont pas les seuls, éventuellement, pour revenir sur ceux ou pas les seuls, hein, il faut qu'on aille plus loin que ça. C'est-à-dire que le débat ne soit pas un débat. Alors, une dérive de type débat, tout le monde dit n'importe quoi, etc., ce n'est pas du tout ça. Le débat argumenté, ce n'est pas du tout ça. C'est un débat qui est mené dans des conditions bien strictes, sur un thème, question ouverte, j'appelle les questions de type question socialement vive, hein, et que les rôles soient donnés, que chacun ait du temps pour argumenter, construire des argumentations, que ces argumentations puissent être confrontées, discutées, et qu'elles n'aboutissent pas à ce que donne la forme scolaire actuellement, c'est-à-dire ce qu'on attendait avant. Pas forcément. Et ça, c'est une révolution. La forme scolaire actuelle, ce qu'elle a dit, et c'est pour ça que je parle depuis des années de pseudo-dialoguer ou de cours pseudo-dialoguer, c'est faire semblant, parce que Phil a encore écrit récemment là-dessus des textes extrêmement éclairants, en disant bah, c'est un jeu, c'est l'école française. C'est-à-dire, le prof, il sait où il veut aller, et il fait semblant poser des questions. Je ne dis pas que c'est inintéressant, mais c'est un jeu un peu de dupe. Et on voit bien quand on va faire des visites à des stagiaires ou à des jeunes profs que bah, c'est faux, hein, c'est incroyablement faux. Ils n'entendent pas des réponses qui ne sont pas celles qu'ils attendent, ce qui est logique. Bon, ben après, des plus chevronnés, bon, ça peut mieux s'en sortir. Mais c'est la logique même de cette forme scolaire actuelle. Or, c'est ça qu'il faudrait changer. C'est que cette forme, mais c'est révolutionnaire. Et c'est sans doute pas. Alors, c'est ce que souhaiterait, disent les textes fondamentaux de l'école, mais la pratique actuelle et les évolutions actuelles ne vont malheureusement pas dans ce sens-là, me semble-t-il.
J'aimerais une deuxième question. Par rapport à la grande question didactique, vous dites que je ne comprends pas, les universitaires refusent un peu ce concept, parce que pour eux, c'est une affaire de la politique, hein, pour son pied. Mais alors, selon vous, qu'est-ce que peuvent nous apporter ces universitaires qui, effectivement, ne connaissent pas forcément très bien ce qu'on fait dans les classes avec des élèves? Qu'est-ce qu'ils peuvent nous apporter?
Alors, d'abord, ce que faisait très bien l'ABCES, c'est toujours très bien l'ABCES, par exemple, vous aider dans la transposition de savoirs issus des sciences économiques, sociologiques, etc., des sciences politiques, et après, à vous de travailler. Je me souviens, quand j'étais responsable de formation, formateur à UFM bien avant, on faisait des apports, et on faisait nous-mêmes, on faisait venir d'autres gens pour des apports de type scientifique, et aide à la transposition. Ça, ça me semble fondamental. Mais bon, c'est pas la réponse de l'ABCES que je vais apprendre ça, ça se fait depuis des lustres et des lustres. Et quand on parle des soutiens, ben, si on peut avoir besoin de soutien, c'est important d'avoir le soutien de gens reconnus largement par leur père et au-delà de leur père. D'où l'intérêt d'avoir des gens comme Guédry et quelques autres. Mais, alors, entendons-nous bien, je n'ai pas dit que... Et puis, ces gens, je ne fais pas d'attaque à Dominem, hein, pas du tout, du tout. Ce sont des gens très respectables. Hein. Certains, peut-être, ont une idéologie très claire et ils savent où ils vont. D'autres, non. Avec la meilleure volonté du monde. Mais, c'est pas parce qu'on est particulièrement savant, expert en sciences économiques, et qu'on s'y connaît dans comment fonctionne une classe et comment on peut observer une classe, etc. etc. C'est pas... Ça s'infuse.
Monsieur Bernardès, moi je respecte beaucoup M. Guénéry dans le travail qu'il fait au Collège de France. Mais quand il écrit, je connais la phrase par cœur, quand il écrit « L'acquisition des fondamentaux devient l'objectif prioritaire et structurant de l'enseignement » qu'il propose de mettre en place. Quand il écrit ça, il n'y a pas d'autre position que de dire non. Vous êtes d'une patience et d'une indulgence fantastique, mais là, M. Guénéry se trompe totalement. Il faut dire, juste une hyperphilie de plus, vous savez, les soi-disant, qui baptise les membres de la commission Guénéry, experts. Mais experts de quoi? Mais Guénéry est expert du travail qu'il fait, remarquablement au Collège de France, bien entendu. Mais c'est tout. Et pour les membres, à part un, c'est-à-dire Sylvain David, ces membres de la commission Guénéry, ils ont tout de même l'honnêteté à dire que nous, on arrive, mais vous savez, on ne connaît rien à rien. C'est déjà pas mal. Et ça prouve leur honnêteté intellectuelle. Mais voilà ce que l'on va baptiser, je ne sais pas comment, des experts. Mais ils ne sont pas du tout experts. Et quand ils vont se promener dans les classes pour dire « Ah ben oui, nous voyons ça », c'est grotesque. Vous êtes gentil, c'est très bien. Moi, je suis plus violent. C'est grotesque.
Un dernier mot, peut-être.
Vous devez passer la parole à Sylvain qui va s'amuser avec vous.
Juste un dernier mot sur les travaux qui vont commencer et qui peuvent vous intéresser. Donc tout à l'heure, je parlais de co-construction de savoir éthique, en particulier vers une éco-citoyenneté. C'est-à-dire qu'il y a deux recherches là, qui vont démarrer. Une qui est une recherche INRP à nouveau et qui prend la suite des travaux qu'on a fait sur les revenus et sur la mondialisation, sur, j'ai appelé ça, les relations aux environnements. Et donc, avec les collègues de SES, etc. Et un deuxième, nous avons eu la chance, après avoir raté l'année dernière, d'avoir une recherche à ANR, sur obstacles et appuis et obstacles à l'enseignement du développement durable. Alors, on a accepté le titre, hein, mais dedans, ce qu'on y met, c'est que le développement durable, ce sera... Notre objectif n'est pas comment enseigner une nouvelle morale, voire une nouvelle religion. Je participe à beaucoup de travaux là-dessus, et le colloque, etc. Éducation relative aux environnements, à l'environnement, aux environnements, oui. Éducation durable, telle qu'on le trouve dans les documents. effectivement actuellement proposé, etc. Non. Alors donc, on va travailler là-dessus, et avec un certain nombre de moyens, pendant 4 années, ça peut ne pas être inintéressant. Si ça intéresse certains d'entre vous, l'une ou l'autre, on peut voir des conditions possibles. Et je suis tout à fait disposé, si l'ABSES le souhaite, etc., un jour prochain, à venir parler un petit peu à partir de résultats, pour vous montrer que certes, vous êtes les meilleurs par rapport à certains, mais que il y a d'autres.